Une des conséquences de la guerre civile en Espagne, l'exil basque. En 1937, suite à la chute de la Biscaye aux mains des franquistes, près de 120 000 Basques durent être évacués par bateau et se réfugier sur le sol français. Ils s'ajoutèrent aux près de 30 000 Basques qui s'y étaient déjà réfugiés lors de la chute du Guipuscoa en septembre 1936. L'opinion publique, que ce soit en Pays basque de France ou dans l'Hexagone, fut en général hostile à ces réfugiés, même si des marques de sympathie et de soutien remarquables se manifestèrent. Voici la conférence de Jean-Claude Laronde, historien, conférence enregistrée à la médiathèque de Biarritz le 24 mai 2012 lors d'une soirée proposée par la médiathèque de Biarritz et la société d'études basques Xcu y Kaxkuntza. L'exil basque, Jean-Claude Laronde.
Je vais vous parler ce soir d'événements qui sont survenus il y a exactement 75 ans. Une des conséquences dramatiques de la guerre civile espagnole, c'est l'exil basque. En effet, dans la guerre civile espagnole, les victoires militaires franquistes, en septembre 1936, c'est la chute du Guipuscoa aux mains des franquistes. En juin 1937, c'est la chute de la Biscaye. Et en février 1939, c'est la victoire franquiste en Catalogne. Toutes ces victoires militaires franquistes vont avoir également pour conséquence l'exil d'une grande partie du peuple basque du sud des Pyrénées. Évidemment, il y a beaucoup de facettes qui seraient à explorer, et il me fallait nécessairement, dans les limites de cette conférence, faire un choix. C'est pour cela que j'étudierai successivement simplement cinq points. Peut-être que des questions tout à l'heure permettront d'éclaircir ou de préciser d'autres points. Donc le premier point que je vais étudier, c'est de différencier les trois vagues de l'exil. Ensuite, je vais parler du gouvernement basque et de l'organisation de cet exil par le gouvernement autonome basque. Ensuite, de l'opinion publique en Pays basque de France, ici donc, et l'accueil des réfugiés. Ensuite, l'action diplomatique, qu'on peut appeler, du gouvernement basque. Et enfin, quels sont les soutiens les plus marquants qu'ont reçus les réfugiés. Et je dois dire que j'étudierai plus spécialement donc, la seconde vague la plus importante de l'exil, celle qui a eu lieu il y a exactement 75 ans, à partir de mai 1937. Cette vague et ses conséquences que j'étudierai plus spécialement puisqu'elle a concerné l'immense majorité, 120 000 Basques. La première vague de l'exil, c'est celle de septembre 1936. Elle trouve son origine dans la chute de la province de Guipuscoa aux mains des franquistes après les combats d'Irun du début septembre et la prise de Saint-Sébastien le 13 de ce même mois. Environ 30 000 personnes s'exilèrent en France, femmes et enfants en majorité. Le département des Basses-Pyrénées, donc ancien nom des départements des Pyrénées-Atlantiques, en accueillant plus de 4 000 pour l'immense majorité d'entre eux dans les villes de la côte basque. Une partie de ces réfugiés put rentrer en Guipuscoa au bout de quelques semaines. D'autres émigrèrent en Catalogne et environ 5 000 prolongèrent leur séjour forcé en France, la plus grande partie d'entre eux dans ce département des Basses-Pyrénées. Parallèlement à ce mouvement migratoire vers la France, plus de 100 000 Guipuscoans s'enfuirent vers la province limitrophe de Biscaye, encore républicaine, et la moitié s'installa à Bilbao. Une fois le gouvernement autonome basque constitué, ce fut le 7 octobre 1936, l'immigration diminua considérablement. Elle fut totalement contrôlée, d'ailleurs, par le gouvernement. Ainsi, 2000 Basques furent évacués par mer d'octobre 36 à mai 1937. La seconde vague de l'évacuation de l'exil, c'est la vague de l'évacuation de la population civile de mai à octobre 1937, il y a donc 75 ans. En effet, après le bombardement de Bilbao par les franquistes le 4 janvier 1937, le gouvernement basque proposa l'évacuation des enfants de 5 à 12 ans. La première évacuation concernant 450 enfants eut lieu le 21 mars 1937 à bord de deux destroyers britanniques de Bermeo à Saint-Jean-de-Luz. Après le début de l'offensive franquiste en Biscaye, le 31 mars 1937, le bombardement de Guernica, ce même jour, qui fit 300 morts. Et après le bombardement de Guernica, le 26 avril 1937, le gouvernement basque décida d'organiser une évacuation massive des personnes n'ayant aucun lien direct avec la guerre. Au bombardement aérien s'ajoutait en effet la rareté des aliments et la dureté de la vie, l'intensité de l'offensive franquiste et la proximité du front qui se rapprochait dangereusement de Bilbao. Du 6 mai au 13 juin 1937, il y eut 11 expéditions par mer depuis le port de Santurce, concernant 26 700 personnes, dont 19 100 enfants. Quatre de ces expéditions avaient pour destination le port de La Palisse, près de La Rochelle, quatre autres le port de Pouillac, près de Bordeaux, deux Bayonne et une le port anglais de Southampton, où débarquèrent le 22 mai 3860 enfants et plus de 200 accompagnants. Après la chute de Bilbao, celle-ci intervient le 19 juin 1937, plus de 100 000 Basques se réfugièrent tout d'abord dans la province de Santander, puis ensuite dans la province des Asturies, en majorité encore des femmes et des enfants. L'évacuation par mer concerna l'immense majorité d'entre eux, puisque, selon les chiffres du gouvernement basque, 31 500 Basques furent embarqués à Santander, à destination de la France, du 20 juin au 24 août 1937, et 61 000 furent embarqués aux Asturies, vers la même destination, donc la France, du 17 juillet au 24 octobre 1937. Au total, vous voyez que l'évacuation de 1937 concerna environ 120 000 personnes. Elle fut réalisée par 30 bateaux, contrôlé par le gouvernement basque, le gouvernement d'Euskadi, et mis à son service. Il y eut 61 traversées. Les bateaux avaient été préalablement aménagés et chacun comprenait un personnel, médecin et infirmière, destiné à s'occuper des services de santé. Entre les exils de 1936 et de 1937, c'est donc au total 150 000 Basques environ qui se réfugièrent en France. L'exil de 1937 concerna environ 32 000 enfants qui furent accueillis dans différents pays d'Europe. 22 800 en France, 3 860, je l'ai dit, en Grande-Bretagne, 3 300 en Belgique, 1 500 en URSS, 250 en Suisse et 100 au Danemark. En raison notamment des mesures de refoulement ordonnées par les autorités françaises en octobre 1937, 95 000 personnes partirent pour la Catalogne et 36 000 rentrèrent dans l'État espagnol par la frontière d'Andaye. En 1938, il y avait environ, sur le sol français, 19 000 Basques parfaitement encadrés par le gouvernement basque. Mais au début de l'année 1939, un nouvel exil s'annonçait. Et c'est la troisième vague de l'exil. La troisième vague qui intervient lors de la victoire très proche des franquistes dans la guerre. Au début du mois de février 1939, après la chute de Barcelone et de la Catalogne aux mains des franquistes, environ 470 000 réfugiés républicains vont passer la frontière catalane en une douzaine de jours. C'est la retirada. Parmi eux, 100 000 Basques, hommes et en particulier anciens combattants, les Goudari, qui furent internés dans une quinzaine de camps de concentration du sud de la France, tandis qu'environ 35 000 personnes, surtout des femmes et des enfants, furent installées dans divers refuges. Bientôt, 1 500 d'entre eux, 1 500 Basques donc, sont regroupés dans le camp d'Argelès-sur-Mer, où ils forment Guernica-Berry. La vie est précaire et particulièrement dure. Les repas sont insuffisants et médiocres. À la mi-mars 1939, il y avait environ 59 000 Basques sur le sol français. Le camp de Gurs fut construit du 15 mars au 25 avril 1939. Il est conçu au départ pour abriter des Basques. Il s'étend en Béarn, près de Navarreinx, aux confins de la Soule, sur 80 hectares. Il va devenir bientôt la troisième agglomération des Basses-Pyrénées, après Pau et Bayonne, par le nombre de ses habitants, plus de 18 000. 6 500 Basques passeront au camp de Gurs en 1939. Il s'agit d'une population jeune, 26 ans, de moyenne d'âge et en bonne santé. Au début, les installations, il y avait plus de 400 baraques, sont en bon état. mais de redoutables fléaux ne tardent pas à faire leur apparition. Les puces, les poux et surtout les rats. La nourriture est très insuffisante et le service de santé est désastreux. Un nombre important de Basques va pouvoir quitter Gurs. Rapatriement en Espagne, évacué sanitaire vers l'hôpital de la Roseraie de Bidar, ouvrier dans les usines de la Défense nationale, surtout après la déclaration de guerre en septembre 1939. Lorsque les Allemands arrivent à Gurs, fin juin 1940, tous les Basques ont pu quitter le camp. Et j'en arrive au deuxième point concernant l'organisation de l'exil par le gouvernement autonome basque. Lorsque tout le territoire basque fut perdu à la fin du premier semestre de 1937, le président Aguirre, président de ce gouvernement, insista sur la nécessité pour son gouvernement de continuer son travail en aidant de la manière la plus efficace possible les réfugiés. Concernant les réfugiés basques en France et la grande majorité de ceux-ci, le travail à réaliser pour leur venir en aide était immense. L'organisation de l'accueil, l'alimentation, l'éducation, la fourniture de vêtements constituèrent une tâche difficile et complexe dans laquelle intervinrent des organismes officiels français, des organisations particulières religieuses et civiles et des familles. Le président Aguirre demanda à son conseiller pour l'assistance sociale, le socialiste Juan Gracia, de demeurer en France pour coordonner les secours. Dans les ports français, à leur arrivée, les réfugiés étaient assistés pour l'échange de monnaie, les distributions de lait et de vivres, les livraisons des bagages, les vaccinations et l'assistance médicale aux blessés et aux malades par un personnel compétent qui avait été désigné à cet effet par les délégations de Bayonne et de Bordeaux du gouvernement basque. La collaboration qu'apportèrent les délégués basques aux autorités françaises fut efficace et facilita grandement la tâche de ces dernières. Parlant de l'organisation des secours, le journaliste de la Petite Gironde, Pierre Dumas, put écrire « Jamais on ne vit un exil mieux organisé. Dans les ports, dès leur arrivée, des résidences et des centres d'accueil étaient désignés aux réfugiés. Le gouvernement basque entretint exclusivement par ses propres moyens, outre les autres refuges évidemment existants sous le contrôle des autorités françaises, 14 résidences réunissant 3200 réfugiés. Près de chez nous, les résidences se trouvaient à Guétari, à Dax et à Orthès et Saint-Christot en Béarn. Outre ces résidences, le gouvernement basque avait établi 3 colonies d'enfants. 2 en Pays basque, à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec 420 enfants et 80 prêtres, professeurs et auxiliaires, et à Armendariz, avec 115 filles et 20 prêtres, professeurs et auxiliaires, et 1 dans les Landes, à Poyanne, dans un édifice dépendant de l'évêché de Dax, avec 115 filles et 20 professeurs et auxiliaires. De plus, environ 8000 enfants basques avaient été recueillis par des familles françaises et des collectivités sous le contrôle du gouvernement basque. En même temps que les civils, furent évacués des hommes qui, du fait de la guerre, avaient été blessés et mutilés. C'est pour les soigner et aussi pour donner aux réfugiés l'assistance médicale gratuite que fut créé l'hôpital médico-chirurgical de la Roseraie à Bidar, dans un vaste et luxueux hôtel du même nom, construit une dizaine d'années auparavant, qui avait été qualifié de plus bel ensemble art déco de la côte basque, mais qui, en raison de mauvaises affaires, avait dû fermer ses portes et fut promptement aménagé en hôpital. Il se trouvait au quartier Ilbaritz de Bidar, à environ 3 km du centre du village et aux portes même de Biarritz. Donc j'ai écrit il y a quelques années un livre, c'est un livre des éditions Bidassoa, qui est une édition trilingue, donc en français, euskara et castillan, sur l'hôpital de la Roseraie, et donc je pourrais le proposer à personnes qui seront intéressées par cet hôpital. Il faut dire qu'il y a plus de 800, il y eut plus de 800 hommes, jeunes pour la plupart, qui passèrent dans cet établissement. Le fonctionnement était assuré par 6 médecins et 20 infirmières. La direction générale était assurée par l'éminent chirurgien de Bilbao, Gonzalo Aranguren. L'édifice loué par le gouvernement basque à partir du 1er juillet 1937 était vaste et réunissait les conditions les plus favorables pour les fins auxquelles il était destiné. Il possédait un grand jardin, une piscine d'eau de mer, 2 cours de tennis et 2 frontons. Il abritait les services de chirurgie générale, d'odontologie, d'ophtalmologie, d'otorhinolaryngologie, de stomatologie, de dermatologie et de gynécologie. Il y avait aussi une maternité et un dispensaire prénatal. La Roseraie devint le lieu d'accouchement de toute la population féminine du Pays basque d'Espagne, réfugiée en Pays basque de France. Il y eut 143 naissances à la Roseraie. Des sections de rééducation, des écoles techniques avec des ateliers d'orthopédie, de fonderie, de couture, de fabrique de sandales, de quincaillerie, de charpente, d'ébénisterie, de coiffure, d'électricité y avaient été installées et avaient permis à de nombreux mutilés d'apprendre un métier. Des classes d'enseignement primaire, de mathématiques, de comptabilité, de sténographie et de français y étaient dispensées. Les mutilés avaient constitué une chorale qui se produisait en de nombreuses occasions, au cours de cérémonies religieuses ou autres, dans les villes et villages des alentours et jusqu'à Tarbes. José Antonio Aguirre écrira « Le jour où j'ai visité la Roseraie, la chorale des mutilés chanta en mon honneur. Peu de fois dans ma vie, je n'ai senti une émotion plus profonde. Ils chantaient leur patrie martyrisée comme leur corps. Quand, appuyés sur leurs béquilles, les uns sans jambes, d'autres sans bras, quelques-uns aveugles, ils lançaient du tréfond de leur gorge les notes nostalgiques des mélodies populaires basques, j'aurais voulu que le monde entier soit présent pour regarder en face ce que certains amis de l'ordre appelaient la canaille. » En définitive, selon leur mot, le mot d'un journaliste, la Roseraie est l'œuvre magnifique d'un peuple qui ne veut pas mourir. En 1939, l'évacuation de la Catalogne rendit nécessaire l'aménagement d'une annexe à l'hôpital dans le château d'Ilbaritz, magnifique demeure construite en 1897 pour le baron de l'Espée. Le 27 juin 1940, les troupes allemandes occupent la côte basque et prennent possession de l'hôpital, vidé de ses membres. Le drapeau à croix gammée remplace les Coulignas. La Roseraie avait vécu. Je vais parler brièvement des exilés basques dans d'autres pays. J'ai déjà évoqué les enfants basques arrivés en Grande-Bretagne et qui furent hébergés au camp de Stoneham, près de Southampton, grâce à l'action d'une femme admirable, Lee Manning, animatrice du Basque Children's Committee. En URSS, les enfants basques rencontrèrent plus de difficultés dans de dures conditions climatiques et au sein d'un système qui prétendait faire d'eux d'enthousiastes partisans du régime soviétique de Staline. Ils ne purent commencer à rentrer dans la péninsule ibérique que 20 ans plus tard. En Belgique, ce furent les comités d'accueil, au sein desquels rivalisèrent le Parti socialiste belge et l'Église catholique, et surtout les familles adoptives qui eurent à supporter le coût de la présence des enfants réfugiés. Également, plusieurs milliers de Basques vécurent la guerre civile en Catalogne. À Barcelone, à partir de la fin de 1936, fonctionnait une délégation du gouvernement basque qui devint en octobre 1937 le siège du gouvernement basque en exil. Plusieurs personnalités basques importantes résident en Catalogne, comme le président Aguirre lui-même et comme Manuel de Grujo, qui fut ministre de la Justice du gouvernement républicain espagnol. J'en arrive au troisième point qui va concerner l'opinion publique en Pays basque de France et l'accueil des réfugiés. Alors en 1937, parmi tous ces réfugiés qui arrivent, l'essentiel des bataillons l'essentiel des masses réfugiées est constitué par des nationalistes basques. Et ces nationalistes basques réfugiés en France durent à partir de 1937 combattre un mythe qui s'était ancré et qui s'était ancré profondément dans les esprits des gens de droite et de la population, à savoir que la guerre civile avait été engagée pour sauver l'Espagne du communisme. L'incompréhension était quasi générale, comme le reconnut José Antonio Aguirre, le président, donc, qui écrivit « Combien étaient rares ceux qui nous comprirent, spécialement en France. Pour les uns, nous étions des indésirables, pour d'autres, des pauvres égarés. Et il ne manquait pas ceux qui nous regardaient avec mépris et nous accusaient d'être les causes des maux de la France. Vous nous divisez, nous dit plus d'un. À cause de vous, nous discutons. » Les déformations de la réalité étaient monnaie courante depuis le début des hostilités. Ainsi, en octobre 1936, l'écrivain Gaëtan Bernoville, basque de sympathie carliste et bien introduit dans les milieux de droite parisiens, n'avait-il pas, dans un numéro de la revue jésuite Études, parlé d'un ralliement du parti nationaliste basque au Frente Popular? Les nationalistes basques étaient particulièrement peinés de constater que beaucoup de catholiques ne pouvaient ou ne voulaient pas comprendre l'attitude du parti nationaliste basque qui, dans la guerre civile, avait choisi le camp républicain, s'opposant ainsi à Franco. Cependant, face aux calomnies, les nationalistes basques ne se départirent point de leur action pédagogique. Il leur fallait expliquer et expliquer encore comment, agressés par un même ennemi, ils s'étaient retrouvés à combattre aux côtés du Frente Popular. Et après tout, ces alliés de circonstance n'étaient-ils pas les partisans du gouvernement légitime et légal de la République? Certes, les catholiques partisans de l'Espagne franquiste pouvaient citer la lettre collective des évêques espagnols à ceux du monde entier au sujet de la guerre d'Espagne, datée du 1er juillet 1937, œuvre du cardinal Gomá, archevêque de Tolède. Mais les nationalistes basques eurent beau jeu de préciser qu'il y manquait trois signatures importantes. Celle du cardinal de Tarragone, Bidal Ibarraquer, et des évêques de Vitoria, Mateo Mujica, et de Orihuela, en Galice. Il pouvait d'ailleurs s'appuyer, face à la majorité des évêques espagnols, sur le texte que publia contre la guerre sainte le philosophe Jacques Maritain dans la Nouvelle Revue française à cette même date du 1er juillet 1937. En ce qui concerne la presse, et particulièrement la presse donc, de notre région, trois quotidiens de Bayonne ont pris, depuis le début de la guerre, fait et cause pour les rebelles franquistes. La Gazette de Bayonne, du Pays basque et des Landes, entend défendre les intérêts touristiques de la côte basque. Elle tient à rassurer les touristes. Le calme règne en Pays basque. On n'y constate aucun trouble. Elle déplore la position des nationalistes basques dans la guerre, leur pacte avec le diable. Les informations données dans ce journal sont approximatives, pour ne pas dire fantaisistes. Ainsi, dans le numéro du 12 septembre 1936, il est écrit « Bilbao va-t-elle proclamer l'indépendance de la Catalogne ?» Également, le courrier de Bayonne critique les nationalistes basques du Pays basque d'Espagne. Il s'agit de malheureux égarés. Je cite numéro du 1er février 1937. « La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se rendre au général Franco, d'autant que celui-ci, je cite, « promet aux Basques leur autonomie » dans un numéro du 10 mai 1937. Mais le quotidien bayonnais, le plus farouchement franquiste, est sans conteste la presse du Sud-Ouest, qui est l'organe des conservateurs locaux. Ce journal est violemment et viscéralement anticommuniste. Aussi, ne peut-il comprendre que les nationalistes basques combattent aux côtés des communistes. Ce journal dénonce dans son numéro du 22 septembre 1936, je cite, « la monstrueuse alliance des catholiques guipuscoans et biscayens avec les pires ennemis de leurs convictions religieuses ». La presse du Sud-Ouest donne largement la parole au député de droite Jean Ibarnegaray, originaire du Arcise, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui ne tarde pas à déclarer qu'il a choisi le camp franquiste. Dès le 25 octobre 1936, lors d'un meeting de son parti, le Parti social français, PSF, qui réunit 6000 personnes à Pau, il propose d'adresser un salut fraternel aux nationaux espagnols qui combattent contre la barbarie communiste pour la civilisation. Surtout, ce journal, la presse du Sud-Ouest, donne une très large place au congrès régional du Sud-Ouest du Parti social français qui a lieu à Bordeaux le 23 mai 1937. Jean Ibarnegaray, qui est vice-président du parti, y prononce un discours dans lequel, je cite, « il condamne le séparatisme basque-espagnol ». Ce discours, reproduit intégralement dans ce journal, est important car c'est un des rares documents où apparaît nettement la position de la droite en Pays basque de France. L'anticommunisme viscéral entraîne la condamnation de l'attitude des nationalistes basques et le désir de voir Franco l'emporter. L'hebdomadaire en langue basque, Eskualduna, aux mains du clergé conservateur, se déclare également en faveur des troupes franquistes et condamne l'attitude des nationalistes basques. En règle générale, on peut constater qu'Eshkol Duna ne consacre que très peu de place et par pas un seul éditorial à une guerre qui se déroule pourtant aux portes même du Pays basque de France. Il faut chercher quelques entrefilets qui y font parfois allusion en deuxième page dans la rubrique Auzo Errexumetan, dans les nations voisines. En octobre 1936, la nouvelle de la formation du gouvernement basque n'est même pas mentionnée. Le numéro sorti après le bombardement de Guernica, le vendredi 30 avril 1937, consacre toute sa première page à la mort de l'évêque de Bayonne, Monseigneur Gieur. Le numéro de la semaine suivante veut, entre guillemets, rassurer les lecteurs. On peut lire « Guernica Kouarbolak et somen douté atik unki, muraren eskualdunek, saintzen douté arbola seindua ». Pour ce que nous en savons, l'arbre de Guernica n'a pas été touché. Les Basques de Mola veillent sur l'arbre sacré. Dans ces conditions, le Sud-Ouest, qui est à l'époque l'organe des radicaux et des radicaux socialistes bayonnais, est le seul journal antifranquiste. Ce quotidien est favorable au Front populaire, tant en France qu'en Espagne. Dès le 1er septembre 1936, Sud-Ouest publie un appel du maire radical de Bayonne, Pierre Simonet, en faveur des réfugiés qui sont déjà arrivés au nombre d'un millier à Bayonne. Le Sud-Ouest consacre le 28 décembre 1936 un éditorial chaleureux à l'action du gouvernement basque qui reflète et réalise les aspirations des jeunesses basques et qui est un rempart démocrate face à la menace fasciste. Il publie même des nouvelles en castillan et en euskara. Il condamne sévèrement l'attitude pro-franquiste des députés de droite d'Elzangle et Ibarnegaray. Après le bombardement de Guernica, l'éditorial porte le titre « Le crime ». Il est écrit dans un article en castillan que je traduis « Guernica n'existe plus. Les barbares fascistes, dans leur haine envers tout ce qui est grand, tout ce qui est noble, tout ce qui est sublime, ont détruit sauvagement Guernica, sanctuaire de la tradition basque et berceau de sa renaissance. » Surtout, Sud-Ouest met l'accent sur le véritable enjeu de la guerre civile espagnole, sur le terrible combat qui s'annonce entre démocratie et fascisme. Le quotidien de la gauche bayonnaise a compris que c'est là le prélude à des combats encore plus terribles et de plus d'envergure. Ainsi, la chute de Bilbao du 19 juin 1937 est replacée dans son contexte international. Sa signification réelle est clairement analysée. Je cite « Bilbao prise, c'est le moral des insurgés qui renaît. C'est la confiance qui réapparaît dans les nations fascistes. C'est l'encouragement à Hitler et Mussolini d'intensifier la guerre de conquête. » Mais cette position favorable au Frente Populaire est minoritaire en Pays Basque. Il ne faut pas oublier que les élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936, qui ont été marquées dans l'Hexagone par la victoire du Front Populaire, ont vu en Pays Basque l'élection de 3 députés de droite, d'Elzangle, de Corral et Ibarnegaray. Seules 3 municipalités de la côte, Bayonne, Biarritz et Hendaye, avec leurs maires radicaux, sont favorables à la gauche. Les idées de gauche ne pénètrent pas en Pays Basque intérieur. La population bascophone est totalement acquise à la droite nationaliste française. Je rappellerai à titre d'exemple qu'aux élections législatives de 1936, Ibarnegaray obtient 94% des suffrages exprimés en Basse-Navarre. Dans la commune du Staris, la proportion est des 3/4 des voix pour d'Elzangle, le candidat de droite. Je vais dire un mot des ambiguïtés d'Aincina. Aincina était le journal du mouvement escualeriste. Le mouvement escualeriste était un petit mouvement politique régionaliste basque fondé en 1932 par l'abbé Pierre Lafitte, professeur au petit séminaire du Staris. On aurait pu penser que ce journal, qui était proche idéologiquement des positions du Parti nationaliste basque d'Outre-Bidassoa, allait prendre résolument fait et cause pour ce parti. Or, il n'en fut rien, et la position d'Aincina, on pourrait dire d'ailleurs la position de l'abbé Lafitte, car j'ai pu constater que lui seul écrivit des articles sur la guerre d'Espagne dans ce journal, la position d'Aincina est une position d'apparente neutralité, d'essai de rapprochement entre les adversaires, de recherche de compromis, d'une médiation, d'une paix séparée entre les frères basques, c'est-à-dire les carlistes navarrais d'une part, et les nationalistes basques des trois autres provinces d'autre part. Aïcina prétend tenir la balance égale entre les deux camps, position qui peut surprendre. Il convient cependant de souligner que face à l'attitude résolument pro-franquiste de la classe politique de droite, nettement majoritaire aux élections, et du clergé du Pays basque, la position d'Aïcina, qui ne veut pas prendre de manière claire parti pour l'un des deux camps, était déjà hétérodoxe et pouvait passer pour avancée dans la mesure où ce journal ne condamnait pas la position des nationalistes basques luttant aux côtés des forces du Frente Popular. Alors quel fut l'accueil des réfugiés au début de la guerre? Lors de la premier exil de 1936, au début de la guerre, il faut souligner la solidarité des partis de gauche avec les réfugiés. Le maire radical de Bayonne, en particulier Pierre Simonet, eut de ce point de vue une action exemplaire. D'autre part, on peut remarquer qu'à ce moment-là, c'est l'émotion suscitée par la guerre qui prime sur les motivations idéologiques, puisque les membres d'un comité de secours constitué à la mi-septembre 1936 sont tous des personnalités de droite sous la présidence du député Bernard de Corral. Mais il va en aller autrement lors de l'accueil des réfugiés au moment de la chute de Bilbao. Certes, de nouvelles manifestations de soutien aux réfugiés ont lieu dans les jours précédant la chute de Bilbao. Donc celle-ci, la date de celle-ci, c'est le 19 juin 1937. De nombreuses personnalités du département des Basses-Pyrénées signèrent l'appel au secours de Bilbao en mai 1937. C'est un appel qui est lancé par les autorités gouvernementales, le préfet et le sous-préfet de Bayonne, l'autorité religieuse, Mgr Houbot, évêque de Bayonne, les parlementaires béarnais et les partis politiques et syndicats démocrates chrétiens et de gauche, le Parti démocrate populaire, la Jeune République, le PC, la SFIO, la Ligue des droits de l'homme, le Parti radical et radical socialiste, la CGT, le Syndicat national des instituteurs. On peut remarquer que les trois députés de droite du Pays basque, de Corral, Delzangle et Ibarnegaray, ne signèrent pas cet appel, empêchés qu'ils en étaient, par leur sympathie pro-franquiste. Une aide matériel est sollicité et une souscription ouverte pour soulager les victimes de la guerre. Il est écrit « 600 000 femmes, enfants et vieillards, fuyant les horreurs de la guerre atroce qui ravage l'Euskadi, sont entassés dans Bilbao, sans provisions et sans abri. » Il faut souligner l'action de l'évêque de Bayonne, Mgr Houbot, qui lança au moment de la chute de la capitale biscayenne un appel en faveur des enfants de Bilbao. Il écrivit « Aidez-nous à secourir cette immense et si pitoyable infortune qui est celle de ces enfants. Ceux qui viendront chez nous seront encore dépaysés, mais ils se sentiront tout près des Pyrénées, et surtout en Pays basque, dans une ambiance familière à leurs yeux, à leurs oreilles, à leur cœur. » Cet appel continue avec l'annonce d'un comité catholique d'accueil et de répartition qui s'est mis en rapport avec l'autorité préfectorale et n'agira que de concert avec elle. Je cite toujours cet appel. Le cardinal Verdier, Mgr Felter, Mgr Mathieu ont accepté de patronner ce comité qui comprend un certain nombre de personnalités basques sous la présidence effective de l'évêque du diocèse. Effectivement, dans ce comité dont l'adresse était à l'évêché de Bayonne, on trouvait un certain nombre de personnalités basques de droite, dont trois conseillers généraux, mais une fois de plus, on notait l'absence des trois députés basques. Et au moment de la chute de Bilbao, l'absence des trois députés du Pays basque des divers comités constitués pour venir en aide aux réfugiés traduisait bien l'hostilité quasi générale de la droite catholique basque, totalement inféodée à Ibarnegaray vis-à-vis des réfugiés. Les manifestations de rejet des réfugiés de la part de la droite catholique sont nombreuses. Ainsi, le journal La Presse du Sud-Ouest entreprend une campagne systématique de criminalisation des réfugiés dans le but de les discréditer aux yeux de l'opinion. Cette campagne connaît son apogée au mois d'août et de septembre 1937. Dans un article intitulé « L'invasion espagnole », le journaliste Henri Pratt, après avoir relaté une liste de délits et incidents imputables selon lui aux réfugiés, écrit, je cite, « La vérité est que Bayonne est envahie par toute une pègre et qu'il devient urgent de s'en débarrasser. » Également, la presse du Sud-Ouest protesta à diverses reprises contre l'activité de la délégation du gouvernement d'Euskadi à Bayonne et demanda avec insistance la fermeture de ce bureau. Le député de Bayonne, René Delzangle, adopta une attitude particulièrement hostile envers les réfugiés. Dans une lettre au ministre des Affaires étrangères du 28 août 1937, il écrit, je cite, « Il importe d'assurer un rapatriement général. Et il n'y a donc qu'une solution à cette question délicate. C'est d'évacuer désormais tous ces réfugiés vers la frontière catalane ou vers la frontière basque, suivant le choix. Si en effet, nous sommes désireux de maintenir à la France sa belle réputation de nation hospitalière, vous estimerez certainement, comme moi, que notre pays ne doit pas devenir le dépotoir de toute l'Europe. » Sous la pression de la droite, le conseil municipal de Bayonne vota le 26 août 1937 un vœu demandant le renvoi de tous les miliciens et volontaires réfugiés à Bayonne. Un conseiller déclara « On ne doit pas abuser de la bonté des Bayonnais, ni laisser toute la charge à Bayonne. » Un autre demanda qui paierait les soins d'hôpitaux des blessés espagnols. Comme anecdote significative, je vais citer l'affaire des anciens maires de Bilbao et de Guernica. Cette affaire déclencha les passions à Bayonne. De quoi s'agissait-il? Dans sa séance du 27 août 1937, le conseil municipal de Bayonne, majorité de gauche, vota les sommes de 6 000 francs et de 6 500 francs, respectivement pour les anciens maires de Bilbao et de Guernica, qui étaient hébergés au centre des réfugiés, et ce, pour leur assurer de meilleures conditions de logement. Ce vote eut lieu à la demande du maire radical donc de Bayonne, Pierre Simonet, qui était désireux de faire un geste d'hospitalité. Aussitôt, des jeunes de droite, ceux du groupement bayonnais d'Union républicaine, protestèrent énergiquement contre, je cite, « les libéralités du maire de Bayonne ». À leur tour, le 11 septembre 1937, 200 contribuables bayonnais écrivirent au sous-préfet de Bayonne. Ils expliquaient que la ville de Bayonne n'avait aucune dette de reconnaissance vis-à-vis de ses voisins espagnols du Pays basque. Ils demandaient l'annulation de la délibération du conseil municipal du 27 août 1937. Le sous-préfet n'ayant pas annulé cette délibération, ils intentèrent un recours en Conseil d'État pour excès de pouvoir. Les autorités ne tardèrent pas à prendre des mesures contre les réfugiés. En octobre 1937, il est décidé que tous les réfugiés espagnols en France depuis le 18 juillet 1936 seront refoulés dans leur pays par la frontière de leur choix, sauf ceux qui, recueillis par des particuliers ou des collectivités, ne grevaient pas le budget de l'État, ainsi que les malades hospitalisés. Des mesures préfectorales décidèrent le refoulement de tous les hommes espagnols, donc de 18 à 45 ans, au nord de la Loire, ce qui entraîna cependant une protestation de 17 maires du Pays basque. Au bout du compte, il faut cependant signaler que les exemples individuels d'aide spontanée aux réfugiés et de généreuse hospitalité furent nombreux, surtout dans les villages frontaliers qui avaient une longue tradition dans ce domaine, comme par exemple Sarre, Asquin, Urugne ou Berriatou. Donc, l'action maintenant diplomatique du gouvernement basque. Dès l'automne 1936, le gouvernement d'Euskadi assigna à la France, et plus spécialement à Paris, un rôle de premier plan dans sa stratégie internationale. Il lui ouvrit en particulier une délégation à Paris à l'automne 1936. Quelles raisons pouvaient expliquer ce choix? Tout d'abord, la France paraissait la puissance la plus importante de l'Europe occidentale. En tout cas, elle était la plus proche géographiquement du Pays basque d'Espagne, de la péninsule ibérique. Dès la constitution du gouvernement d'Euskadi, tous ces délégués, tous les délégués de ce gouvernement, tous ces envoyés spéciaux à l'étranger, durent obligatoirement passer par la France et surtout par Paris, quel que fût le pays où ils devaient aller. À partir de mai-juin 1937, avec l'arrivée massive des réfugiés en provenance de Biscaye, la France et Paris furent un point de passage obligé, même pour ceux qui allèrent ensuite en Angleterre, en Belgique, en Amérique centrale ou du Sud. Enfin, la France avait, comme l'Espagne, un gouvernement de front populaire à prépondérance socialiste. Si le gouvernement français se refusa officiellement à alimenter en armes et en munitions le gouvernement républicain espagnol et adopta une politique de neutralité sous la surveillance du comité de non-intervention, du moins joua-t-il un rôle efficace dans l'aide aux réfugiés qui, fuyant les combats, arrivaient par dizaines de milliers sur son territoire. Également, Paris était le fief d'une démocratie chrétienne humaniste qui prendra fait et cause pour le gouvernement d'Euskadi dans sa lutte contre Franco, d'autant plus que ce dernier était aidé par les régimes nazis et fascistes que détestait cette démocratie chrétienne. Dans l'action diplomatique du gouvernement d'Euskadi, on peut distinguer une action politique, le journal Euskodeia, une action culturelle, les groupes Ereshoinka et Elai Alai, et même une ambassade sportive, l'équipe de football Euskadi. Le 29 novembre 1936 paraissait à Paris le premier numéro d'Euskodeia, la voix des Basques, édité par la délégation du gouvernement d'Euskadi. La périodicité de ce journal fut en général hebdomadaire. Ce journal parut jusqu'à l'offensive des Allemands en mai 1940. Un rapport sur la propagande réalisé par Euskodeia est adressé en mars 1937 par la délégation de Paris au gouvernement d'Euskadi. On y apprend que ce journal est envoyé à tous les parlementaires, aux principaux consulats et ambassades, à des membres éminents du clergé français, à des cercles d'intellectuels et aux associations de nombreuses minorités régionales ou nationales. En mars 1938, pour le numéro 100, un article indiquait « Euskodeia, la voix des Basques, notre peuple risquait de succomber dans le silence et l'incompréhension. » Lutter contre la force était le devoir de ceux qui se battaient en Biscaye. Lutter contre le mensonge fut le devoir d'Euskodeia. Ce journal répondait au vœu du président Aguirre qui écrivit, je cite, « Sur notre sol, nous avions terminé la guerre. Mais ce n'était pas pour cela que notre esprit était mort face au monde entier. Nous voulûmes montrer à l'extérieur la façon dont vibrait cette âme basque. » qui avait été sacrifié sur l'autel du totalitarisme qui menaçait d'envahir toute l'humanité, et nous organisâmes des journaux, des revues et des représentations théâtrales. Une des représentations les plus brillantes de l'exil basque fut Ereshoinka, dont la création fut décidée 3 jours avant l'évacuation de Santander, en août 1937, par le président Aguirre lui-même, qui écrira plus tard. J'appelais près de moi un célèbre musicien basque. Il s'agissait de Gabriel Olaizola, chanteur d'opéra et directeur de chœur réputé. J'appelais près de moi un célèbre musicien basque et lui dis « Il est possible que nous ne puissions pas sortir d'ici. Mais ce n'est pas pour autant que la lutte doit se terminer. Au contraire, je veux qu'elle se porte aussi sur le plan artistique. Je vous charge de partir immédiatement pour la France et de former parmi nos réfugiés le chœur le meilleur possible. » Qu'il porte de par le monde, avec nos mélodies, le souvenir d'un peuple qui meurt pour la liberté, parce qu'on ne sait pas encore à l'étranger qu'on lutte pour elle. La troupe ainsi formée, environ 110 artistes, s'installa pour les répétitions à Sarre pendant 2 mois, jusqu'à la mi-novembre 1937. Puis Ereshoinka partit à Paris, à la conquête du public de la capitale. Les 4 premières représentations eurent lieu à la salle Pleyel en décembre 1937. On pouvait lire sur les affiches « Ereshoinka présente le grand chœur basque et l'académie chorégraphique d'Euskadi dans le spectacle d'art basque ». Parmi les 63 chanteurs, figurait un certain Luis Mariano et une contralto soliste du nom de Pepita Embil, qui n'était autre que la mère du ténor Placido Domingo. Après les succès parisiens, vinrent les tournées d'Ereshoinka en Belgique, février 1938, aux Pays-Bas, mars, de nouveau à Paris, avril, à Londres, en juin. En septembre 1938, ce furent Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-Pied-de-Port, avant le concert à Paris, en l'église de la Madeleine, en l'honneur du cardinal Verdier, archevêque de Paris, en décembre 1938. Depuis fin juin 1938, la troupe était confortablement installée au château de Bellois, Saint-Germain-en-Laye. Fin mai 1939, ce fut l'apothéose au Palais de Chaillot. Ereshoinka avait eu des critiques élogieuses dans les plus grands journaux et plusieurs interprétations demeurèrent dans les mémoires comme des classiques, comme Agur Jaunak, Amabegirasasu, Boga Boga, Akera Ikusidegu, Bigaren Kareskale, Aldapeko, Adio Nemaitia, Goiko Mendian, etc. Au mois d'août 1939, devant les menaces de guerre, ce fut la dissolution du groupe. Le président Aguirre écrivit « L'art exquis de notre musique, la perfection surtout à laquelle est arrivé l'ensemble choral, ainsi que les danses magnifiques d'Ereshoinka, ont été des instruments de pénétration pacifique dans les âmes de ceux qui ne nous connaissaient pas ou dans les âmes de ceux qui nous ignoraient et qui étaient nos adversaires. » Une autre passionnante aventure fut celle du groupe d'enfants, danse et chant, Elai Alai, joyeuse hirondelle. Comme son fondateur et directeur, Segundo Olaeta, ce groupe était originaire de Guernica. L'été 37 fut mis à profit pour des répétitions à la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port et quelques spectacles en Pays basque. En octobre 37, les enfants s'installèrent à Suresnes, dans la banlieue parisienne. Elai Alai donna de grands spectacles à Paris, puis partit dans le nord de la France où il donna 25 spectacles en décembre 38. De retour à Paris, le groupe y donna encore 3 grands spectacles en mai 39. La petite Lide Olaeta, 3 ans, fille de Segundo, était présentée sur les affiches comme la plus petite danseuse du monde. Après la déclaration de guerre, Segundo Olaeta, qui allait fonder 3 ans plus tard les chœurs et ballets basques Oldara de Biarritz, se résolut à arrêter l'aventure d'Elai Alai. Les enfants retournèrent à Guernica. Leur mission était terminée. Ils avaient témoigné, aux yeux du public français, de l'enthousiasme et de la foi des enfants de la cité martyre basque. Une ambassade sportive fut constituée par l'équipe de football Euskadi, formée en avril 1937, dans le double but de susciter à l'étranger un courant de sympathie pour la cause basque et de recueillir des fonds pour les réfugiés. L'ossature de l'équipe était constituée par des joueurs de la prestigieuse équipe de l'Athletic de Bilbao. Le premier match de la tournée fut joué exactement le lundi 26 avril 1937 au Parc des Princes, à Paris. L'adversaire était le Racing de Paris, défait sur le score de 3-0. Le match se déroulait à l'instant même où des avions allemands, lourdement chargés de bombes, se dirigeaient vers Guernica pour y effectuer leur sinistre besogne. 3 autres matchs eurent lieu en France avant le départ pour la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'URSS, avant le retour par la Finlande, la Norvège et le Danemark. Le plus souvent, les victoires furent basques et cette tournée suscita un énorme intérêt parmi les différents publics. À Moscou, pour le match contre le Lokomotiv, écrasé 5-1, 90 000 spectateurs assistèrent à la rencontre. L'équipe partit en octobre 1937 pour l'Amérique en bateau par le port du Havre. À part une incursion à La Havane en 1938, l'équipe Euskadi se fixa au Mexique, où ses prestations étaient si appréciées que l'équipe reçut, fait extraordinaire et unique, l'offre de participer au championnat du Mexique pour la saison 38-39, championnat qu'elle remporta. Après la dissolution de cette équipe, en avril 1939, des clubs d'Argentine, parmi les plus prestigieux, s'attachèrent les services de plusieurs footballeurs basques. J'en arrive au dernier point, c'est-à-dire le soutien aux réfugiés. En France, ce furent incontestablement, surtout donc dans cette deuxième émigration de 1937, ce furent incontestablement dans les milieux de la démocratie chrétienne, du catholicisme social, libéral et humaniste et du courant catholique de gauche que le gouvernement d'Euskadi et son journal Euskodeia allaient recevoir le soutien le plus solide, le plus constant et le plus décidé. Parmi ces groupes catholiques, on peut citer la Jeune République, petit groupe catholique de gauche qui soutenait l'action du Front populaire et qui avait fait élire 4 députés aux législatives de 1936. Ce groupe affirme dès le début de la guerre d'Espagne sa solidarité avec la République espagnole et, après le bombardement de Guernica, son soutien à la cause basque. Parmi ses dirigeants, Maurice Lacroix et Philippe Serres furent des soutiens indéfectibles du gouvernement basque. Le Parti démocrate populaire, le PDP, fut entre les deux guerres un parti démocrate chrétien et le prédécesseur direct du mouvement républicain populaire MRP qui lui fut fondé fin 1944. Là aussi des amis fidèles du gouvernement basque comme Auguste Champetier de Ribes, Pierre Dumas et Ernest Peset. Mais c'est un petit parti. Il ne compte que 13 députés en 1936 et son score global dans l'Hexagone ne dépassera jamais 4% des suffrages exprimés. Sur le plan international, il marquera nettement son hostilité au fascisme. Le groupe des Pères dominicains, qui crée en mars 1934 un hebdomadaire, 7, le chiffre 7, qui comptera parmi ses collaborateurs François Mauriac, Daniel Rops, Pierre-Henri Simon et Georges Bernanos. Au mois d'août 1937, la direction de 7 reçut du Vatican un télégramme lui retirant le droit de paraître et lui enjoignant de se saborder. Les dominicains s'exécutèrent, mais des laïcs sympathisants firent paraître aussitôt un nouvel hebdomadaire, Temps présent. C'est certainement le soutien donné par Sept au peuple basque qui fut directement la cause de sa disparition. On peut citer aussi le groupe des catholiques sociaux, fidèles à l'idéal du sillon de Marc Sangnier, créé par ce dernier dans les dernières années du XIXe siècle. Parmi ses anciens sionistes, on peut citer à Bordeaux le père Antoine Dieuzaïde et à Bayonne l'avocat Franck Moreau. Les catholiques menés par Francisque Gay et Georges Bidault, qui éditent à partir de 1937 le quotidien L'Aube, seront aussi des alliés fidèles du gouvernement basque. L'Aube se voulait un pont entre les centristes du PDP et la tendance de gauche incarnée par la Jeune République. Son soutien aux Basques s'affirma nettement à partir du bombardement de Guernica. Après cet événement, le brillant éditorialiste de l'Aube, Georges Bidault, dans un article intitulé « Le martyr de Guernica », écrivit, je cite, « Pendant 3 heures, les avions allemands ont dans les rues et dans les champs tiré à la mitrailleuse sur les femmes et sur les enfants. Tout cela au nom de la civilisation et même de la croisade, comme on dit. » Autre groupe ami du gouvernement basque, les collaborateurs de la revue Esprit, fondée en 1932 par Emmanuel Mounier. Là encore, le bombardement de Guernica marqua fortement. Après la Seconde Guerre mondiale, Emmanuel Mounier dira que lui-même et ses amis étaient convaincus de la haute signification qu'avait l'attitude adoptée par les catholiques basques. Également, le syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC, soutint les réfugiés en raison des liens étroits et l'unissait au syndicat proche du Parti nationaliste basque, la Solidaridad de Trabajadores Vascos, Solidarité des travailleurs basques. Ces deux centrales syndicales, CFTC et STV, étaient membres de la Confédération internationale des travailleurs chrétiens. En particulier, le syndicaliste Paul Vignon rédigea de nombreux articles de soutien à la cause basque. On peut donc dire que les Basques avaient rencontré, dans l'opinion française, des soutiens déterminés, actifs et courageux, même si ces soutiens ne constituaient pas des bataillons très nombreux. C'est la Ligue internationale des Amis des Basques, la LIAB, qui incarne le mieux la solidarité avec la cause basque et le soutien aux réfugiés. Parmi les antécédents de la Ligue internationale des Amis des Basques, il convient de retenir l'action du Comité français pour la paix civile et religieuse en Espagne, qui s'efforce de dénoncer les horreurs de la guerre civile espagnole et les menaces contre la paix du monde, et qui insiste sur la nécessité d'une médiation internationale pour arrêter les combats. Animé par le philosophe Jacques Maritain, ce comité, malgré sa position officielle de neutralité, penche de plus en plus en faveur du camp républicain et de la cause basque. Également, le Comité national catholique d'accueil aux Basques joue un grand rôle pour le soutien aux réfugiés et plus particulièrement aux enfants basques. Son président, Mgr Clément Mathieu, originaire de Hasparren, évêque d'Aire et de Dax, et à Bordeaux, le père jésuite Antoine Dieuzaïde, se dépense sans compter pour coordonner toutes les initiatives d'aide aux Basques. Ces dernières sont largement redevables à l'action d'un mécène inspiré, Manuel de Inchosti, personnage modeste mais extraordinairement efficace et entreprenant, à l'origine de ce comité national catholique, comme il sera à l'origine de la Ligue internationale des Amis des Basques. L'année suivante. Réfugié Eustaritz, grand ami du président Aguirre, Manuel de Inchosti mit à la disposition du gouvernement basque une partie de la fortune que sa famille avait constituée aux Philippines au XIXe siècle. La fondation de la Ligue internationale des Amis des Basques intervient en décembre 1938, à un moment particulièrement pénible pour les Basques. La victoire de Franco ne fait plus aucun doute, pour personne. Et la reconnaissance du régime franquiste par la France et la Grande-Bretagne se profile dans un avenir très proche. Et, de fait, elle interviendra fin février 1939. Il fallait absolument et de façon urgente au gouvernement d'Euskadi, un puissant relais international qu'il convenait tout d'abord de créer sur le territoire français du fait de l'importance et de l'acuité du problème des réfugiés. Deux comités sont créés qui forment la section française de la Ligue internationale des Amis des Basques. Le comité de secours aux Basques, qui est un comité humanitaire, et le comité des intérêts généraux d'Euskadi, qui est un comité plus politique et d'information sur le peuple basque. Parmi les membres les plus connus, dont la majorité se rattache incontestablement au courant démocrate chrétien, figurent François Mauriac, Jacques Maritain, le cardinal Verdier Édouard Herriot, qui lui était radical, Ernest Peset et Auguste Champetier de Ribes. C'est en la personne de François Mauriac, président du comité des intérêts généraux d'Euskadi, que les Basques vont rencontrer leur allié le plus prestigieux. Jusqu'à sa mort en 1970, le célèbre écrivain restera un soutien constant et fidèle des Basques, en même temps qu'un antifranquiste déterminé. Dès juin 1937, il avait écrit ces lignes prophétiques. « Un jour peut-être, nous comprendrons que ce pauvre peuple souffrait et mourait pour nous. Dieu veuille alors que nous ne retrouvions pas leurs morts là où il nous faudra enterrer les nôtres. » Pour François Mauriac, la guerre d'Espagne avait été la répétition générale de la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, on peut dire qu'il y a 75 ans, l'exil basque, qui concerna au total environ 150 000 personnes, fut une conséquence dramatique de plus de la guerre civile espagnole. Le gouvernement basque du président Aguirre dut soutenir et aider ses ressortissants d'une part et lutter contre les calomnies franquistes qui assimilaient tous les exilés à des communistes d'autre part. En ce qui concerne l'accueil que reçurent ces réfugiés, en particulier en Pays basque de France, à partir de 1937, les motivations idéologiques l'emportèrent sur les sentiments humanitaires. Si l'on accepte la solidarité manifestée par les partis et syndicats de gauche et par une démocratie chrétienne humaniste, mais très minoritaire dans l'opinion catholique, le sentiment qui domine est une attitude d'hostilité envers ces réfugiés. Plusieurs facteurs seraient à prendre en considération pour expliquer cela, mais le plus important de ces facteurs me paraît être l'influence de la mentalité dominante de l'époque en Pays basque de France, faite de nationalisme français, mentalité d'anciens combattants de la guerre de 14, et de soumission aux notables ultra-conservateurs, dont l'archétype est Jean Ibarnegaray, et à un clergé traditionnaliste, dans sa quasi-totalité de droite, voire d'extrême droite, et peu favorable aux idées de la démocratie chrétienne. On doit cependant nuancer en disant qu'il y eut quelques notables exceptions et qu'en particulier les populations frontalières furent moins perméables à la propagande franquiste et donnèrent quelques exemples remarquables de sympathie et de solidarité active. Je vous remercie pour votre attention.
Une des conséquences de la guerre civile en Espagne, l'exil basque. Vous venez de suivre la conférence de Jean-Claude Laronde, enregistrée à la médiathèque de Biarritz le 24 mai 2012, conférence co-organisée par la médiathèque de Biarritz et la société d'études basques Eusko Ikaskuntza.